Retrouvez le festival Les Embarqués les 15 et 16 juin au Parc de l'Hériposse en Normandie. Entre rêve et réalité, entre terre et eau, fêtez l'arrivée de l'été avec 2 jours de spectacles époustouflants. Théâtre, cirque, musique et danse, venez vivre le festival des Embarqués. Il vous entraînera au cœur de la nuit avec le spectacle pyrotechnique du célèbre groupe F et son ballet de drones. Spectacle ouvert à tous et gratuit. Tous les renseignements sur le site internet de l'agglomération Seine-Eure. Parking 5 euros.
Mes très chers frères, nous sommes réunis ici en l'an de grâce...
Un matin de l'an 1517 à Autun, sur le parvis de la cathédrale consacrée à Saint-Lazare,
dans ce tribunal ecclésiastique,
les passants s'étaient arrêtés nombreux pour regarder le crieur de l'évêque.
Pour juger du crime commis par...
Cette année-là, les rats étaient apparus particulièrement nombreux. Il y en avait partout. Ils visitaient les greniers les mieux fermés et entamaient les réserves d'orge.
Accusés de détruire des récoltes entières...
Ils semblaient être les augures d'un avenir sombre. Le chapitre s'en inquiétait car il devait assurer le nourrissement des pèlerins qui venaient à Autun pour voir les reliques de Saint-Lazare. Et leur affluence grossissait toujours plus.
De nombreuses plaintes ont été déposées contre
ces larmes. Les semences de mars avaient mal levé, la récolte n'avait pas été bonne et les terres en jachère l'étaient pour 3 saisons encore.
En ma qualité de juge d'église de ce tribunal...
Le procès des rats d'Autun. Premier épisode, les animaux à la barre.
Nous avons ensemble imploré la clémence divine.
Grégoire Ossoa, Agnès Catou.
De cette terrasse, on a une bonne lecture du paysage urbain autunois, dont l'aspect a naturellement considérablement été modifié depuis le début du XVIe siècle.
André Strasberg, secrétaire général de la Société éduenne des lettres, sciences et arts.
Ce qui reste de quasiment intemporel, c'est l'environnement rural, avec la ligne d'horizon au nord qui est constituée par les monts du Morvan, massif qui prolonge vers le nord-est le massif central, au-delà d'une plaine d'effondrement qu'on appelle le bassin d'Autun et où coule une rivière affluente de la Loire, la Roue. À la fin de l'Antiquité, cette ville éclate en un certain nombre de noyaux urbains qui sont disséminés sur une énorme zone devenue agricole, qu'elle soit purement agricole ou horticole, prés, champs, jardins. L'église est omniprésente à Autun. Il y a la ville haute où nous nous trouvons, siège épiscopal, où l'évêque vient s'installer probablement au début du IVe siècle et où vont se concentrer tous les édifices religieux médiévaux. Les cérémonies religieuses rythment le quotidien de l'Autunois du XVe et du XVIe siècle. Il y a également les abbés ou abbesses des différentes abbayes. Donc le territoire est complètement couvert religieusement, culturellement et juridiquement même par l'autorité religieuse. Par ailleurs, Autun étant une église riche, a un chapitre important, 48 chanoines, juste un moins que Notre-Dame de Paris. Ce qui justifie ce rôle religieux très important d'Autun, c'est aussi le pèlerinage de Saint-Lazare. Alors ces pèlerinages deviennent importants en cas de calamité, peste en particulier ou disette. Très vite, on se retrouve fragilisé en période de ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire entre la fin de la consommation des réserves et l'arrivée des nouvelles récoltes.
Avant l'instruction de cette première audience, veuillez vous lever et tous ensemble, prions.
Une plainte avait donc été déposée contre la vermine noire, et l'évêque avait chargé l'official d'instruire l'affaire. Ainsi est-il mandé à tous les rats du voisinage de se présenter de corps à 3 jours d'aujourd'hui devant nous pour être entendus sur les raisons de leur licence. Ces paroles avaient été rédigées par l'évêque d'Autun et elles furent répétées devant le palais épiscopal.
Les procès d'animaux, on a du mal à fixer une date de départ.
Éric Baraté, professeur d'histoire contemporaine à l'université Lyon 3.
Alors les premiers procès, premiers connus, datent 12e-13e siècle, et ça semble vraiment se multiplier au niveau des sources, fin Moyen-Âge, 14e-15e siècle, jusqu'au 16e-17e siècle. À la fin du Moyen-Âge, l'Église a un regard relativement riche sur les animaux, dans le sens où elle les emploie beaucoup. Les animaux sont de véritables missionnaires de Dieu. On en parle sans arrêt, les prêtres dans leurs sermons, dans les vies des saints, dans l'iconographie, les animaux sont partout. La présence des animaux dans les édifices religieux ne choque absolument pas jusqu'au XVIIe siècle. Il y a des chiens qui rentrent dans les églises, il y a des cochons qui rentrent dans les cimetières. De toute façon, le cimetière ou l'église peuvent faire office de place de marché. On y danse, on s'y amuse, etc. Dans beaucoup de villes, c'est le cimetière autour de l'église est la seule place publique libre où il y a de l'espace. Donc il n'y a absolument pas la séparation qu'on connaît maintenant, totale, entre les morts et les vivants. Les vivants et les morts vivent ensemble, on pourrait dire.
Le 17 août 1487, les grands vicaires de Jean Rohin, alors évêque d'Autun, avait ordonné que chaque paroisse du diocèse organisa des processions durant 3 jours consécutifs afin d'avertir les limaces de la menace judiciaire qui pesait sur elles. Le 8 septembre de l'année suivante, les vicaires de Beaujeu, près de Villefranche-sur-Saône, ont organisé des défilés sous la bannière des saints pour exhorter des hordes de charançons à cesser leurs ravages dans les herbes, les champs et les vignes, sous peine de s'exposer au châtiment. En 1516, c'est l'official de Troyes qui laisse 6 jours à des insectes pour quitter le diocèse. Dans ce même temps, en Espagne, l'évêque s'était déplacé lui-même dans les dunes pour visiter les rats et les avertir de la menace d'excommunication. Visite qui provoqua leur dispersion.
Alors il y a 3 types de procès. Il y a les procès pour des animaux qui ont provoqué des accidents. Un cheval, un chien qui a fait tomber un cavalier, ce cavalier est tué, des porcs qui s'en prennent à des petits-enfants, qui peuvent les mutiler en essayant de les dévorer, voire les tuer. Tous les accidents de rue, des chevaux, des chiens, des porcs, etc., qui provoquent des accidents avec, la plupart du temps, mort d'homme. Il y a un deuxième type de procès, ce sont les procès de bestialité, qu'on trouve par-ci, par-là, extrêmement disséminés, mais qui montrent que la pratique existait. Donc, la plupart du temps, des hommes accusés de rapports sexuels avec des animaux de ferme ou avec des chevaux, etc. Puis, il y a un troisième type de procès qui concerne les animaux en bande, je dirais, ce qu'on appelle les animaux maintenant nuisibles. Les insectes, les rats, les vers qui s'en prennent aux récoltes, aux stocks de céréales. Et alors, ceux-là, comme on considère qu'ils ont été envoyés par Satan ou envoyés par Dieu pour punir les humains, ces cas-là sont jugés par la justice ecclésiastique, puisque les populations vont demander excommunication ou exorcisme, donc c'est à l'Église de décider. Alors la fonction sociale, elle est très très importante. Ces populations sont démunies par rapport à ces animaux ravageurs, totalement démunis. On n'a évidemment pas d'insecticide, on n'a rien. Et le seul recours que l'on puisse avoir, c'est justement le recours vis-à-vis de Dieu. Ce que les paysans veulent, c'est que ces insectes ou ces rats, etc., arrêtent de détruire les récoltes. Donc, il y a très souvent un procès ecclésiastique. On désigne des avocats pour les plaignants, des avocats pour les animaux qui doivent pouvoir être défendus.
Mes très chers frères, il convient maintenant de procéder à la qualification des faits selon le droit canonique. Huissier.
Barthélemy de Chasseneuf fut choisi par le tribunal comme l'avocat de la défense, c'est-à-dire le procureur des rats. Plus qu'un respect des formes, cette nomination montrait une réelle volonté de justice. Les compétences de Chasseneux mises à la disposition des accusés garantissaient l'équité de leur procès.
Le portrait que l'on a de Chasseneux...
Christian Dugas, professeur émérite à l'Université de Lorraine.
C'est un portrait qui a certainement été fait à la fin de sa vie. Les traits de son visage montrent déjà un homme qui a certainement dépassé la quarantaine. C'est un homme qui, apparemment, était un homme mince. Il est représenté, revêtu de sa toge de magistrat, et il porte sur la tête le bonnet de docteur. Le grade de docteur in utroque jure, c'est-à-dire en droit romain et en droit canonique, est le dernier grade universitaire. Il était donc au sommet de la hiérarchie juridique, ce qui montre son autorité dans l'institution. Il est né en 1480 dans une famille autunoise, certainement une famille de bonne bourgeoisie. C'est un homme qui a fait l'essentiel de sa carrière dans le bailliage d'Autun, en Bourgogne, comme avocat du roi sous le règne de François Ier. Pour comprendre ce qui l'a amené à faire des études de droit, il faut certainement replacer ça dans le contexte administratif de la ville d'Autun, diocèse très important, qui était générateur de problèmes administratifs, de problèmes juridiques et de problèmes judiciaires qui pouvaient intéresser toute une jeunesse qui cherchait à s'établir. Donc, Barthélemy de Chasseneux, pour ses études, il a passé 2 ans à Dole et il est parti à Poitiers. Ensuite, il est parti en Italie, car faire des études sans passer par les universités italiennes était à l'époque absolument inconcevable. Il a eu quelques responsabilités administratives en Italie, mais il était parti assez rapidement de l'Italie pour des raisons tout à fait pratiques. Il le dit lui-même dans ses travaux, il voulait fuir une épidémie de peste.
Savez-vous qu'à 1000 ans, ils ont muré toute maison où gisait un pestiféré?
Cela signifiait la mort, non seulement des malades. Cela ne changeait pas grand-chose pour eux. Mais aussi celle des habitants que le mal n'avait pas encore atteint.
Fasse le ciel que nous n'ayons pas à en venir là. Ce serait pitié pour le pauvre peuple. Boutiques et ateliers sont fermés, mais les compagnons et les valets sont là, qui errent dans les rues ou se terrent dans leurs soupentes. Les plus riches, en revanche, ont rapidement quitté la ville.
Après avoir terminé ses études et avoir obtenu le grade de docteur, il revient à Autun, où il s'établit au sein du bailliage chargé de faire valoir en toutes circonstances les intérêts de la couronne. C'est-à-dire intérêts financiers, intérêts patrimoniaux. Donc, c'était en quelque sorte la base, le fondement de son activité qui lui laissait beaucoup de temps d'ailleurs pour s'occuper d'autre chose, faire des consultations juridiques et travailler sur les travaux qu'il a publiés. Alors, consultation première. Une consultation, c'est un avis donné par un juriste sur un problème juridique. Le juriste dit, voilà, eh bien, écoutez, compte tenu de tel règlement, de telle loi, de la jurisprudence sur le sujet, votre problème peut se régler de telle ou telle façon. À l'époque, avoir la consultation juridique de quelqu'un qui est docteur donnait beaucoup de poids à la consultation juridique devant les juridictions royales, en particulier les juridictions de bailliage, de sénéchaussée, et aussi devant les cours religieuses. Et dans la consultation qui nous concerne ici, celle des procès d'animaux, c'est pas un procès devant la justice séculière, la justice du roi, c'est un procès devant la justice ecclésiastique, devant l'officialité. Bon, peut-on jeter l'anathème sur des animaux? Peut-on les considérer, comme il est dit dans le texte, des excommunicatione animalium infectorum, pouvoir excommunier des animaux malfaisants?
On raconte que Chasseneux aurait été désigné pour être le représentant des rats dans le fameux procès des rats d'Autun.
Ninon Maillard, maîtresse de conférences en histoire du droit à l'Université Paris-Nanterre.
Ce qu'on reproche aux nuisibles, c'est d'avoir dévoré les récoltes des hommes. C'est d'avoir privé les hommes du fruit de leur travail. C'est-à-dire que les hommes se retrouvent dépouillés de leur récolte et ils se trouvent en danger. La perte des récoltes, ça signifie la faim et ça signifie la mort.
C'est pour ça que l'Église ne peut pas refuser de... Nous, maintenant, ça peut nous paraître aberrant, mais elle ne peut pas refuser de venir en aide à ces populations. À partir du moment où on est dans un système clos, où tout le monde croit que le monde est créé par Dieu et qu'il intervient sans arrêt, et que Satan intervient sans arrêt, l'Église ne peut, si elle ne fait rien, elle laisse partir ces populations vers des guérisseurs plus ou moins patentés, ou des gens qui vont utiliser la sorcellerie, etc. Et dans les campagnes, il y a une forme de concurrence et de lutte entre ces populations-là de guérisseurs, de magiciens, de rebouteux, etc., et le curé de l'autre côté. Et donc l'Église ne peut pas rester bras ballants, elle est obligée d'intervenir.
Finalement, la question du procès qui est fait aux nuisibles pose un certain nombre de difficultés procédurales. Et Chasseneux est attentif à ce que la plainte soit entendue et que les insectes et les rats soient représentés. Ces nuisibles sont nombreux. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait pour les citer à comparaître? C'est impossible.
Comment peut-on avertir ces animaux,
Christian Dugas, historien du droit,
du procès qu'on leur intente? Encore faut-il qu'ils soient convoqués, et qu'ils soient convoqués dans les formes requises par le droit. Autrement, il y aurait un vice de procédure. C'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouve d'ailleurs dans le roman de Charles Daubat sur le procès des rats d'Autun, où on indique que Chasseneux aurait dit « c'est très bien de convoquer les rats, mais il faut qu'ils puissent lire le texte de la convocation. Il faut la mettre au ras du sol, autrement ils ne pourront pas la lire. »
Qui juge-t-on aujourd'hui ?
Chasseneux s'écrie. Des affiches pour informer les rats de leur convocation, il y en a, certes, mais si elles sont trop hautes pour eux, quel intérêt ? Aussi, je vous le demande, que veut-on ? Leur faire un juste procès ? Pourra-t-on dire demain que nous avons été dignes de la cause que Dieu a mise entre nos mains ? Car il faudrait dans ce cas expliquer comment les rats pourraient se présenter ici pour leur défense sans avoir connaissance de la tenue de ce procès. Laissez-moi vous rappeler que des crieurs ont été dépêchés pour informer les limaçons du lac Léman lors du procès qui leur a été fait. Pendant plus de 2 heures, ils ont parcouru la campagne alentour pour exposer les motifs de l'accusation et nous, ici, nous pourrions nous abstraire de ce qui oblige les autres ailleurs. Je demande donc que l'on ajourne le procès et que dans chaque paroisse soit réalisé un juste affichage qui tienne compte de la hauteur des bêtes et que soit lue l'assignation sur chaque place publique de chaque paroisse qui a connu un ravage afin qu'elle soit bien entendue par tous ceux qu'elle vise. Rappelez-vous qu'il y va du salut de nos âmes, car il n'y a d'autre juge que Dieu. Et il ne nous revient pas à nous, ces créatures parmi les autres créatures, de dire à sa place lesquelles valent plus que les autres. N'oublions pas que Dieu nous regarde et qu'il nous voit. De la manière dont nous jugeons, c'est nous aussi qui sommes jugés.
étant donné qu'on est dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y a des règles à respecter.
Ninon Maillard.
Et Chasseneux est un juriste, mais aussi un avocat. Donc, quels sont les arguments chez Chasseneux que l'on peut retrouver pour la défense des animaux ? Eh bien, il faut laisser le temps aux nuisibles, ici aux rats, de pouvoir se déplacer jusqu'au lieu de justice. Il faut leur laisser un délai et il faut faire en sorte que ces petits rats puissent se présenter indemnes devant le tribunal. Et ce chemin est parsemé d'embûches. Il y a notamment des chats qui pourraient attaquer les rats et empêcher leur arrivée au tribunal.
Chasseneux soutient que l'absence des rats devant le tribunal ne constitue pas un motif suffisant pour fulminer quoi que ce soit. Car la cause en est simple. C'est le procès lui-même qui a fait grand bruit à travers toute la campagne et a semé sur les routes toutes sortes de chats et d'embuscades diverses. Et les pauvres bêtes ne peuvent venir jusqu'à la cour puisque tous les chemins sont pleins de ces prédateurs qui les attendent. Qu'on leur donne au moins le temps de trouver des chemins sûrs pour venir se présenter à la cour.
Silence !
Il prend aussi l'exemple du vol. Il y a eu vol. Les insectes, les rats ont pris les récoltes et ont donc volé les grains. Dans ce cas-là, il y aurait vol flagrant parce qu'ils nous expliquent qu'ils le font en plein jour, devant tout le monde, etc. Mais Chasseneux nous dit, en réalité, il n'y a pas vol puisque ces rats cherchent avant tout à se nourrir. Donc, ils répondent à leur nature. Il est dans leur nature de se nourrir. Donc, on ne peut pas les punir pour un acte qui est licite, puisque Dieu leur a donné comme nourriture les grains.
Silence !
Le visage défait, les juges suivent le manège de cet avocat qui se met à chaque fois en travers de leur route, invoquant de nouveaux motifs pour retarder le moment où l'on bannira les rongeurs. Derrière eux, la foule s'agite et gronde. De l'arrière, certains jettent des injures à la volée, des plaisanteries aussi, et le flot des têtes ondule de gauche à droite selon ce qui amène son attention. « Excommunions les rats, avant qu'ils nous affament !» Et de plus loin, un autre cri « Excommunions l'avocat aussi !» La foule rit. Dans l'assemblée, après un moment de flottement, on se met à crier « Les juges repartent !» Et la foule vrombit. Elle les poursuit, les entoure, sans oser les arrêter, ni toucher leurs beaux habits. La file des juges s'arrête et l'official s'avance seul. « Retirez-vous. Le tribunal doit entrer pour discuter des suites à donner à l'appel de la cause. »
Et la sentence qu'ont les paysans attendent, c'est l'excommunication.
Éric Baraté, historien.
L'excommunication, c'est que vous sortez l'individu concerné, vous le sortez de l'Église, vous le sortez de la communauté des créatures de Dieu. Et si vous le sortez de ça, et ben c'est la mort. Hein, vous le rejetez dans le néant. L'excommunication est l'acte le plus grave que l'on puisse porter contre un être vivant. Hein, vraiment, il n'y a pas pire. Donc finalement, faire cela, c'est presque être Dieu. Hein.
Qu'est-ce que peut dire l'avocat des nuisibles pour les défendre ? Il peut simplement alerter le juge en lui disant « Attention, une peine d'excommunication, une peine d'anathème, une peine trop lourde, ça veut dire rejeter ces animaux sur des terres stériles où ils ne pourront plus se nourrir et où ils sont condamnés à mort. » Et donc Chasseneux, dans ses arguments, nous dit « On ne peut pas aller jusque-là. »
Huissier. Veuillez donner lecture de la première ordonnance s'adressant directement à ces maudits insectes.
Le tribunal a rendu l'ordonnance que voici. Le tribunal juge qu'il ne peut être demandé à aucune créature de Dieu de quitter la terre qui la nourrit sans possibilité de survivance par ailleurs. Pour cette raison, et en gage de contrition auprès de Dieu, l'évêché d'Autun et l'abbaye Saint-Martin proposent d'offrir aux rats les terres attachées à l'ancien prieuré de Montjeu et laissées en l'état depuis. Ils pourront ainsi s'établir à bonne distance de la ville et des cultures, sans prendre aux hommes le bénéfice d'une terre déjà cultivée. Chaque procession ira autour des terres infestées pour y faire lecture aux rats de l'ordonnance rendue par le tribunal. Les gens d'Autun devront faire résolution de vivre désormais selon la justice et la charité et de payer les dîmes qu'ils doivent à la Sainte Église afin que cesse ce mal que Dieu a envoyé pour nous punir. Et tous sur cette terre, hommes ou rats, devront observer cette décision qui a été rendue selon les préceptes du droit canon, sans quoi ils s'exposeraient aux foudres de l'excommunication et d'une perpétuelle malédiction sans délai ni recours.
Ce qui va se passer, c'est qu'on va organiser des processions et on va se rendre dans les champs. Et là, tout le monde est là. On a les représentants de l'institution ecclésiastique, on a la communauté tout entière, les représentants des institutions séculières aussi. Et puis, on va prononcer le verdict qui a pour but de chasser les nuisibles et de leur dire qu'ils ne sont plus les bienvenus sur le champ et sur la récolte. Concrètement, il doit prévenir plutôt que punir.
Alors, lorsque ça marche, évidemment, ça entraîne une reconnaissance de la population vis-à-vis des procédures de l'Église. Et finalement, eh bien, on est presque dans la normalité. On a demandé à Dieu l'excommunication et Dieu a accepté. Lorsque ça ne marche pas, eh bien, ça veut dire que Dieu n'a pas accepté, tout simplement. Et s'il n'a pas accepté, quelle est l'explication que l'on avance à ce moment-là? C'est que on ne s'est pas assez fait écouter de Dieu. Et pourquoi ne s'est-on pas fait assez écouter de Dieu? Sans doute parce qu'on ne s'est pas assez repenti. Et donc, si ça ne marche pas, ben, il faut encore plus prier. Et si ça ne marche toujours pas, eh bien, c'est que Dieu a décidé de vraiment infliger une très forte punition à cette population. Alors, au bout d'un moment, ces animaux ravageurs disparaissent, hein, de toute façon, hein, pour une raison écologique, pour une raison de population animale elle-même. Lorsqu'à Marseille, on fait une procédure parce qu'il y a plein de dauphins dans le port et les environs de Marseille et qu'ils mangent les poissons et que les pêcheurs se plaignent, bah, au bout d'un moment, ces dauphins disparaissent, ne serait-ce que parce qu'il n'y a plus assez de nourriture. Hein, donc, c'est la même chose pour les insectes. Lorsque les insectes ont ravagé les récoltes, il faut bien qu'ils aillent ailleurs. Donc, à un moment ou l'autre, de toute façon, le problème est résolu.
Je vais maintenant exposer mes conclusions.
Sur ces mots, l'official se tait et à ses pieds, la foule bascule dans la joie. Oui, ils feront tout cela, les processions, les contritions et les dévotions. Ils feront tout ce qu'on leur demande et ce qui doit être fait, car enfin ils auront Dieu pour eux. Après toutes ces souffrances et tous ces fléaux, tout rentrera dans l'ordre qu'il a voulu.
L'audience est levée.
Ici s'achève l'histoire du procès des rats d'Autun et de leur avocat Barthélemy de Chasseneux. Enfin, pas tout à fait. C'était le procès des rats d'Autun, premier épisode, les animaux à la barre. Merci à André Strasberg, secrétaire général de la Société éduenne des lettres, sciences et arts, Éric Baraté, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, Christian Dugas, historien du droit, professeur émérite à l'Université de Lorraine, et Ninon Maillard, maîtresse de conférence en histoire du droit à l'Université Paris-Nanterre. Extrait du procès des rats d'Autun de Charles Daubas et de Bêtes et juges de Jean Réal, lu par Élodie Hubert. Un documentaire de Grégoire Ossoa, réalisé par Agnès Catou.